Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris. C'est l'heure du journal avec Arthur Poncelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Nicolas et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une, la France, à l'heure du choix, on vote ce dimanche pour les élections législatives anticipées. Participation en nette hausse par rapport à 2022, plus 7,5 points. Reportage à suivre. Gaza toujours sous les bombes israéliennes. Les combats se poursuivent dans l'enclave et les civils palestiniens subissent encore et toujours les conséquences. On fait le point avec notre correspondante à Jérusalem dans un instant. Au sommaire également, le premier ministre hongrois Viktor Orban veut créer un nouveau groupe au Parlement européen. Une annonce qui intervient à la veille de l'arrivée de la Hongrie à la présidence tournante de l'UE. Et puis nous parlerons de l'ouragan Beryl, le premier de la saison aux Antilles. Il vient d'être classé catégorie 3, synonyme de très dangereux. C'est un jour décisif en France. On vote pour le premier tour des élections législatives anticipées avec une participation en nette hausse à la mi-journée dans l'Hexagone, près de 26%. C'est 7,5 points de plus par rapport à 2022, du jamais vu en 43 ans. Mais il n'y a pas que les électeurs hexagonaux qui votent. Les Français de l'étranger se mobilisent aussi. C'est le cas en Chine, par exemple. Reportage dans le bureau de vote de Pékin avec notre correspondant Stéphane Lagarde.
8 affiches et 7 panneaux blancs dans le hall de l'ambassade de France à Pékin. Les 15 candidats de la 11e circonscription des Français de l'étranger n'ont pas tous envoyé leur matériel électoral. Noémie, venue avec ses deux filles, 5 ans et 2 ans et demi, est parmi les premières à mettre son bulletin dans l'urne.
On a la chance de pouvoir voter et donc c'est important de venir avec mes filles pour leur montrer le devoir citoyen.
Faire son devoir de citoyen dans des élections inédites, cela n'était pas arrivé depuis des années à Alexandre, qui travaille dans le cinéma.
Moi, je n'ai jamais voté. Je suis arrivé en Chine il y a 15 ans, donc j'ai refait ma vie ici. La Chine m'a beaucoup changé. Donc j'ai pas eu trop eu le temps de penser à la France en fait.
15 ans sans vote, aujourd'hui il fallait voter.
Il fallait voter, ouais. Parce que la France va mal. C'est assez difficile de faire son choix, mais j'espère que je ferai le bon.
Hésitation chez les électeurs devant la gravité du moment. Certains expatriés ont différé leur départ et sont venus à l'urne avec leur valise avant de prendre l'avion. D'autres ont opté pour le vote en ligne, dont se méfie Walter.
Moi, je voulais venir me déplacer, quoi. Parce que je suis pas un grand spécialiste de l'ordinateur. Voilà.
À voter.
Malgré ces réticences, le vote en ligne a été privilégié par une grande partie des expatriés. Guillaume Roy, consul général de France à Pékin.
On a 500 votants par voie électronique comptabilisés, ce qui fait un peu moins du tiers de la liste électorale. Ça explique en partie qu'il n'y ait pas beaucoup de monde ce matin. On a reçu beaucoup de procurations au consulat sur les deux dernières semaines.
Et à la mi-journée, le bureau de Pékin comptait 630 votes exprimés, Internet compris, contre 240 à la même heure le 9 juin. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Les élections législatives en France, c'est évidemment à suivre sur RFI.fr. Ne manquez pas notre édition spéciale ce soir à partir de 17h45 temps universel. On connaîtra les premiers résultats à partir de 18h TU. Participation importante en France, vous venez de l'entendre, mais pas en Iran, où elle a atteint un taux historiquement bas. On votait vendredi pour élire un nouveau président. Le second tour est prévu le 5 juillet prochain. Il doit départager le réformateur Mahmoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Ouverture de la troisième conférence internationale sur l'Afghanistan ce dimanche. Rendez-vous organisé par l'Organisation des Nations Unies. Et c'est une première, les talibans doivent y participer. Objectif, ouvrir un dialogue politique, mais pas avec tout le monde. La société civile, particulièrement les organisations défendant les femmes afghanes, sont absentes de cette conférence. Les civils palestiniens ne connaissent aucun répit à Gaza. L'armée israélienne bombarde sans relâche le nord de l'enclave sous blocus et poursuit depuis plusieurs jours des combats acharnés au sol, notamment dans le quartier de Shujaya à l'est de la ville de Gaza. Au quatrième jour, l'invasion s'intensifie et les civils palestiniens encerclés décrivent des situations catastrophiques. À Jérusalem, correspondance d'Alice Froussard.
Dès jeudi, les habitants du quartier de Shujaya avaient été appelés à évacuer. C'était la panique. Des scènes de terreur racontent des familles de Gazaouis qui ne savaient pas où aller. Et depuis 4 jours, certains se disent pris au piège. Beaucoup, à cause des bombardements et des tirs incessants, n'ont pas pu évacuer. Les témoignages des habitants et des journalistes sur place font état de bulldozers, de chars israéliens qui tirent sur des zones résidentielles. La nourriture manque, il n'y a plus rien et les blessés nombreux sont en incapacité d'être évacués, les ambulances ne pouvant pas atteindre la zone. De son côté, l'armée israélienne a déclaré avoir tué plusieurs combattants palestiniens, localisé des armes et frappé des infrastructures militaires au cours de la journée. Elle a aussi annoncé la mort de 2 soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza. Quant au Hamas et au djihad islamique palestinien, ils affirment que leurs combattants ont tiré des roquettes anti-chars et des tirs de mortier contre les forces israéliennes dans ces zones. Alice Froussard, Jérusalem RFI.
La guerre se poursuit aussi en Ukraine. Ce dimanche, la Russie annonce la prise de 2 nouveaux villages dans l'est du pays. Cette nuit, des frappes russes contre une ville de la région de Zaporijjia et des villages de la région de Donetsk ont fait 11 morts. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé ce dimanche son intention de former un nouveau groupe parlementaire européen. Annonce faite lors d'une conférence de presse conjointe avec le parti d'extrême droite autrichien et le groupe centriste tchèque. Cela intervient alors que ce lundi, la Hongrie prend la présidence tournante de l'Union européenne après des mois de blocage et de tensions avec la Commission et ses partenaires. Viktor Orban a préféré créer son propre groupe plutôt que d'intégrer ECR, le groupe des conservateurs et réformistes européens. UID, le groupe Identité et Démocratie, dont fait partie le Rassemblement National. Un choix somme toute logique selon Arsenio Cuenca, doctorant à l'École pratique des hautes études et chercheur spécialiste de l'extrême droite.
Pour Orban, l'enjeu était vraiment de libérer une famille européenne. C'était pas le cas s'il passait à intégrer le groupe de conservateurs et réformistes, qui était celui qui avait plus de possibilités d'intégrer. Pour lui, l'intérêt était de plus être un parti indépendant, sans famille, parce que faut le rappeler, si tu fais pas partie en tant qu'organisation politique dans l'Eurogroupe, on n'a pas le droit à tout un tas d'aides, subventions, droits à organiser des conférences, à consulter des experts. On a une marge assez limitée pour embaucher des assistants parlementaires, mais pas beaucoup plus. Donc pour lui, cette manœuvre va le permettre de revenir sur la scène européenne en force et de faire partie d'un mouvement, d'une tendance beaucoup plus large que lui-même, qui est l'extrême droitisation du Parlement européen.
Arsenio Cuenca, chercheur spécialiste de l'extrême droite, au micro de Romain Lemaresquier. L'actualité en Europe, c'est aussi les intempéries qui frappent la France, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne. Des pluies torrentielles, des orages et de violentes tempêtes ont fait plusieurs victimes. 3 morts ce samedi dans le nord-est de la France, écrasés par un arbre à bord de leur voiture. 4 morts également en Suisse dans un glissement de terrain. On change de continent, mais on continue de parler des intempéries, direction les Caraïbes, où le premier ouragan de la saison s'apprête à déferler. Beryl, c'est son nom, produit des vents qui atteignent déjà près de 150 km/h, et il devrait encore se renforcer. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
C'est le précurseur d'une saison des ouragans qui s'annonce d'ores et déjà record.
Eh oui, Beryl se trouve encore au large des Petites Antilles. Il est passé de tempête tropicale à ouragan dans la nuit, et il vient à l'instant d'être reclassé en ouragan. Ouragan majeur à mesure qu'il se renforce. On attend des rafales d'au moins 180 km/h. C'est le premier en effet et il arrive bientôt dans la saison. C'est un phénomène rare qui s'explique notamment par les températures anormalement élevées de l'Atlantique Nord. Beryl lance une saison des ouragans qui s'annonce record. Tous les ingrédients sont réunis. Eau chaude donc et une transition entre les phénomènes climatiques El Niño qui est en train de s'achever et la survenue de son pendant, La Niña, dans les mois qui viennent. Les experts anticipent ainsi cette année plus d'une trentaine d'ouragans sur l'Atlantique Nord, dont une petite dizaine qualifiée de majeure, c'est 2 fois plus que la moyenne. Beryl, lui, devrait atteindre les îles du vent dans la nuit de dimanche à lundi, la Martinique, la Barbade, Trinité et Tobago, entre autres, qui se préparent à affronter des vents potentiellement mortels, selon le Centre national américain des ouragans, et des vagues de plusieurs mètres de haut.
Simon Rosé, chef du service environnement de RFI, merci et bonne journée à vous. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Il n'y aura pas de JO pour le français Renaud Lavillény. Le perchiste a échoué à se qualifier pour ses 4e JO. Il a échoué à 3 reprises à 5 mètres 72. Dans le reste de l'actualité sportive, l'Euro de football avec 2 matchs de 8e de finale ce dimanche. L'Angleterre affronte la Slovaquie. Ce sera à 16h, temps universel. Très décevant, lors de la phase de groupe, les Anglais doivent se réinventer. En cas de qualification, la Slovaquie, elle, rejoindrait les quarts de finale d'une compétition majeure pour la première fois de son histoire. Toujours dans l'Euro de football, l'Espagne affronte-t-elle la Géorgie? Rendez-vous à 19h, temps universel. Puis l'actualité aussi sportive, c'est aussi le Grand Prix d'Autriche en Formule 1. Le départ vient d'être donné. Le Néerlandais Max Verstappen s'est lancé de la pole position, suivi par le Britannique Lando Norris. La Mercedes de George Russell partait-elle en troisième position. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 15h10, ici à Paris, 2h de moins en temps universel.